Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Eliott Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Jérémy Kaufmann.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Le travail, c'est du temps transmué en argent. L'écriture, c'est le même temps changé en or. Voilà ce qu'écrit le poète Christian Bobin dans son recueil « L'épuisement ». Des mots qui font écho à notre série consacrée au temps du travail et à son histoire conflictuelle. L'avènement de la société industrielle a fait de la réduction de la durée du travail l'un de ses grands combats. Seuls les romans de Zola et les ouvrages des historiens nous rappellent qu'il fut une époque où l'on travaillait jusqu'à 16 heures par jour. Deux siècles plus tard, pourtant, le débat n'est pas tranché. Il est 14 heures sur France Culture et l'heure du labeur a sonné. Nous allons parler de la dilution du temps de travail avec Jean-Yves Boulin, sociologue, chercheur associé à Paris Dauphine, et Bernard Friot en duplex de Nice, sociologue et économiste, professeur émérite à Paris Nanterre. À 14h50, on retrouvera la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques.
Le gouvernement de Front Populaire est constitué. Son programme est le programme du Front Populaire. La semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier. La victoire des 26 avril et 3 mai reçoit aujourd'hui sa pleine consécration.
Bonjour Bernard Friot et Jean-Yves Boulin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on vient d'entendre la voix de Léon Blum dans une archive du 15 juin 1936. La semaine de 40 heures est instaurée, on l'a entendu. C'est alors une grande victoire, Jean-Yves Boulin ?
C'est extraordinaire parce que, effectivement, à l'époque, c'est une grande victoire. Parce que c'est non seulement les 40 heures, mais c'est aussi l'introduction des congés payés, de deux semaines de congés payés. Et moi, en entendant ça, je me dis que depuis les années, on va dire, fin des années 80, début des années 90, les annonces des gouvernements ne sont jamais, ne transforment pas le travail en or, pour reprendre l'expression de Christian Bobin. Aujourd'hui, c'est toujours régressif, c'est toujours des annonces, non pas pour améliorer la situation des travailleurs, des ouvriers, des employés, parce que maintenant, il y a peut-être moins d'ouvriers, mais il y a beaucoup plus d'employés qui sont dans la même situation, c'est plutôt des propositions, des annonces qui sont, que ce soit la loi travail, que ce soit les ordonnances travail, que ce soit aujourd'hui la réforme des retraites, des annonces qui sont plutôt en régression, qui font pas, voilà, c'est pas porté par le mouvement ouvrier, au contraire, c'est contre le mouvement ouvrier.
Vous êtes d'accord avec cette vision, Bernard Friot, un temps de conquête sociale, de réduction du temps du travail, et ensuite un temps plus récent de régression sur cette question ?
Oh bah oui, on est vite d'accord là-dessus, évidemment.
Et alors, juste sur ce son, sur cette voix de Léon Blum qu'on a entendue, c'est important de voir que la date de 1936 est essentielle. Mais avant cela, il y a peut-être une autre date clé, 1848. La durée de la journée de travail passe à 12 heures au maximum pour les ouvriers à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire de la réduction du temps du travail au cours des 19e et 20e siècles, Bernard Friot ?
Ben, c'est à la fois nécessaire et c'est en même temps une réponse pas véritablement adéquate à la conquête du pouvoir des travailleurs sur le travail. C'est absolument nécessaire de réglementer le travail, de réduire la durée du travail, etc., etc. Mais il faut aussi tout de suite dire que l'enjeu essentiel pour les travailleurs, c'est de conquérir la maîtrise du travail. Mmh. Et Dieu sait si, dans toutes les régressions que nous connaissons depuis une quarantaine d'années, la séparation des travailleurs des fins et des moyens de leur travail est devenue, qui caractérise le capitalisme, est devenue absolument patente, hein, combien le management s'emploie avec une assiduité formidable à à disqualifier les travailleurs, à faire de travailleurs qui ont énormément d'expérience, d'éternels débutants, à leur ôter toute maîtrise du travail.
Pour vous, on a et tort de réduire la question du travail à celle de sa durée, de son temps ?
Ben, précisément, si vous voulez, la conquête de la maîtrise du travail peut être, disons, relativisée si ce travail dont on a perdu la maîtrise, ben on le quitte le plus vite possible, on réduit le plus vite possible. C'est pour ça qu'une ambiguïté dans la réduction de temps de travail, c'est à la fois nécessaire et en même temps, si ça se substitue à la conquête de la maîtrise des travailleurs sur le travail, c'est une illusion.
Alors on va revenir sur ce point qui est absolument essentiel, mais d'abord continuons encore un petit peu sur l'histoire. On peut déceler deux raisons de réduire le temps de travail après 1945. À la fois il y a cette idée de mieux répartir les fruits de la croissance, mais aussi de mieux partager un travail qui se raréfie, Jean-Yves Boulin.
Oui, alors si on prend la période, juste pour revenir sur l'historique long, effectivement, vous disiez 1848, mais la première loi sociale en France, c'est important ça de dire, c'est en 1841, c'est-à-dire une loi vraiment, c'est la première loi sociale qui réduit, qui interdit le travail des enfants de moins de 8 ans. Alors on est déjà dans des situations qui sont pas comparables avec aujourd'hui. Mais ça a été aussi le 1er mai, et qui est la fête du travail, qui est universelle. C'est une fête qui est liée à la question de la revendication des 8 heures, où il y a eu dans les années 1880 à Chicago un massacre. La première convention de l'OIT, de l'Organisation Internationale du Travail, porte sur la question du temps de travail, la journée de 8 heures, etc. Alors pour revenir à 1945, oui, en tous les cas, après, il y a eu cette phase de reconstruction, et qui a été une phase de croissance importante, etc. Et on a réparti, effectivement, on a distribué, enfin, on dit ça mécaniquement, les économistes emploient ce terme, de distribution des gains de productivité entre investissement et aussi réduction du temps de travail, qui a surtout pris à l'époque la forme d'une augmentation des congés, troisième semaine, quatrième semaine en 1968, troisième semaine en 1963. Là, effectivement, mais la durée hebdomadaire, elle, n'a pas fondu parce qu'il fallait, effectivement, on avait besoin de travailleurs, etc. Il y avait la loi des 40 heures de Léon Blum, dont on a entendu parler tout à l'heure, finalement, elle a trouvé sa réalisation seulement à la fin des années 70 avec la réduction des heures supplémentaires progressivement. Et effectivement, après, ça a été le passage à 39 heures avec l'ordonnance 1982.
Mais ce qui est intéressant, peut-être, c'est de voir que le discours a changé après les années 70, après les premiers chocs pétroliers. On ne parle plus de répartir les fruits de la croissance, Bernard Friot, mais on parle de mieux partager un travail qui se raréfie, c'est-à-dire vraiment de lutter contre le chômage qui, notamment, augmente à cause des délocalisations.
Oui, mais le mot d'ordre « travaillons au moins pour travailler tous », d'abord c'est un mot d'ordre qui alimente la xénophobie aujourd'hui absolument catastrophique dans le débat public, puisque si il faut travailler moins pour travailler tous, les étrangers vont être de trop toujours. Le problème du « travaillons au moins pour travailler tous », c'est qu'il suppose que le temps de travail, c'est une quantité limitée. C'est une quantité limitée, c'est une quantité qui va même se diminuer avec la numérisation, etc. Et alors que le temps de travail, il n'y a aucune raison que les besoins en travail diminuent. C'est la forme capitaliste de productivité qui repose sur l'élimination du travail vivant, son remplacement par la machine systématique, là où c'est pas du tout nécessaire, qui réduit le temps de travail et qui fait le temps global de travail et qui aboutit à des mots d'ordre qui lient la nécessaire réduction du temps de travail, non pas à l'amélioration de nos vies, au fait que nos vies soient libérées de la question de la valeur, beaucoup plus de temps chaque jour, mais au fait que le travail est une quantité limitée. Et ça, c'est une croyance absolument mortifère.
Qu'est-ce que vous pensez de cette croyance, Jean-Yves Boulin ? Parce qu'on peut aussi considérer que le travail appelle le travail, que plus on produit, plus on va créer du travail et plus on augmente la consommation, qui est un cercle qui existe, qui peut exister.
Oui, mais là, on touche à des limites qui sont des limites qui apparaissent aujourd'hui très fortes, par exemple environnementales, par rapport à la question de la consommation et de la production. Je pense que la question de la réduction du temps de travail, c'est vrai qu'elle a été toujours en tension tension entre, effectivement, cette idée du partage du travail. Je suis d'accord avec Bernard que c'est pas un gâteau qu'on va partager. Il peut augmenter, il peut diminuer, etc. Donc ça, c'est pas la question. Mais je pense que cette question de la réduction de la durée du travail reste vraiment très, très importante aujourd'hui. Que ce soit en termes de maîtrise du temps de travail, que ce soit en termes d'articulation des temps de vie, etc. C'est aujourd'hui ce qui manque, c'est une réflexion sur le travail, y compris dans la réforme des retraites dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mmh. Effectivement, il manque cette question du travail. La retraite, c'est quelque chose qui vient après le travail, sauf qu'on c'est comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'elle manque de sens. Elle n'est pas référée à ce qui était avant. Et la question du travail, effectivement, elle est éminemment diversifiée selon les contextes dans lesquels ce travail se déroule, entre un professeur d'université et quelqu'un qui travaille pendant 7 heures par jour, 8 heures par jour dans les sous-sols comme conducteur de la RATP. On ne peut pas considérer que c'est le même travail, et les questions de la pénibilité, etc., sont très importantes. Donc, si vous voulez, dans cette question, il y a effectivement la dimension, et moi je pense qu'elle est aussi importante, du partage, mais pas d'un gâteau comme d'un gâteau qui serait défini à l'avance, mais effectivement de comment on peut, puisqu'aujourd'hui dans notre société on considère que le travail est une valeur essentielle, et ça toutes les enquêtes valeurs le montrent, etc., que ce qu'on y cherche c'est de l'émancipation, c'est de la réalisation de soi-même, etc., donc il faut que tout le monde ait accès à ça, et aujourd'hui c'est pas le cas.
Question étant effectivement, voilà, comment est-ce qu'on y arrive, et comment est-ce qu'on fait en sorte que ce travail soit mieux partagé. Alors il faut revenir tout de même sur une étape incontournable de la réduction du temps de travail, c'est la loi sur les 35.
On peut avoir 3 gains. Les chefs d'entreprise, à partir du moment où ils obtiennent dans la discussion de réorganiser le processus de travail, d'avoir plus de souplesse notamment dans les rythmes de travail. Les salariés, parce qu'ils vont y gagner, sans perdre de salaire, normalement, en tout cas la plupart des contrats qui sont signés sont de cette nature, ils vont y gagner un temps de loisirs ou d'activités autres supplémentaires. Et puis, la société, nous tous, parce que l'objectif est de créer des emplois. Dans certains cas, c'est vrai, de ne pas faire des licenciements. Mais si vous ne faites pas des licenciements, Gérard Leclerc, ça veut dire aussi que vous avez des chômeurs en moins. Donc, il peut y avoir des accords défensifs, mais il y a aussi des accords offensifs. Voilà. Et je pense que la dynamique, au contraire, est lancée. J'y crois beaucoup.
Mais monsieur, je ne sais pas pour dire la chose carrément. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une partie du patronat qui essaye soit de tourner la loi, soit même de la retourner à son avantage en faisant plus d'heures supplémentaires et de flexibilité que de la réduction du travail et de la création d'emplois? C'est une tentation qui existe ou pas?
C'est une tentation qui va s'arrêter, à mon sens, quand ces patrons en question auront compris que nous ne l'autoriserons pas par la loi. Donc c'est pas la peine qu'ils essayent d'inventer des processus qui n'auront aucune réalité légale.
Le Premier ministre Lionel Jospin, le 8 octobre 1998, il était face au journaliste Alain Duhamel. Alors avant d'en venir à ces contournements par les entreprises, vous voyez sourire Jean-Yves Boulin, est-ce que on peut d'abord répondre à cette question qui est ce qu'a réellement permis cette loi sur les 35 heures? Aujourd'hui encore, il y a des débats sur ce sujet.
Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de débats. Les choses sont... C'est assez intéressant parce que Lionel Jospin, à ce moment-là, on est en 98. Et donc, dans la première loi, on est sur la première loi Aubry et la première loi sur les 35 heures, imposait effectivement de compenser la réduction du temps de travail en emploi. C'est-à-dire soit défensif, soit offensif. On était sur le modèle un peu de la loi Robien de 1996. Qui avait ce double niveau de soit offensif, soit défensif. Mais derrière, il y avait soit de la création de l'emploi, soit de la préservation de l'emploi. Or, Lionel Jospin, en 2000, a arrêté ça. C'est-à-dire que cette contrainte, cette dimension de l'emploi a été abandonnée. On a dit non, on ne peut pas, parce que les entreprises ne peuvent pas, etc. Donc du coup, effectivement, la loi elle a été d'une certaine manière contournée.
C'est ce qui explique qu'il n'y a pas eu les créations d'emplois qu'on a.
Non, alors par contre, il y a eu des réorganisations du temps de travail. À cette occasion-là, il n'y a jamais eu autant d'accords d'entreprises signés et d'accords de branche signés que durant cette période-là. Et c'est des accords qui ont effectivement permis l'annualisation, mais des choses qui étaient importantes aussi, de faire de l'annualisation, etc. Mais ça a été c'est ce que j'appelle moi la flexibilité productive, et on a oublié, je dirais, la flexibilité d'autonomie des individus, c'est-à-dire comment on redonne, ça aurait été une occasion de redonner du pouvoir aux individus sur l'entente, c'est-à-dire de pouvoir décider de leur temps de travail, de leurs horaires, etc. Bon, ça n'a pas été le cas.
Bernard Friot, sur ce qu'il reste aujourd'hui de ces 35 heures, est-ce qu'on peut dire que les entreprises ont cherché à contourner la loi depuis son instauration, depuis ses origines?
Mais Jean-Yves a très bien montré comment dans sa deuxième mouture, cette loi était déjà... pas besoin de la contourner après, hein. Elle était déjà très discutable. Il faut ajouter à ça qu'elle a légitimé les exonérations de cotisations patronales. Hein. Pour un SMIC, aujourd'hui, il y a 5000 euros par mois de moins de salaire, puisque par an, je veux dire, de salaire en moins, hein, de cotisations patronales en moins. Et ces 5000 euros sont remplacés par une dotation budgétaire de 5000 euros. Donc, les patrons payent 5000 euros de moins et il y a 5000 euros de moins pour payer des services publics et des fonctionnaires. Donc, les effets des 35 heures sont globalement négatif, de mon sens, ce qui montre bien que si la réduction du temps de travail, Jean-Yves le disait à propos de la maîtrise de son temps, si la réduction du temps de travail n'est pas une des dimensions de la conquête du pouvoir sur le travail, elle entraîne une intensification du travail, la fin des temps de transport dans le temps de travail, la fin des pauses.
Parce qu'en réalité, ces 35 heures étaient en permanence dépassées et sont encore aujourd'hui en permanence dépassées par des heures supplémentaires.
Ah bah, de toute façon, oui, de toute façon, la durée du travail n'a pas considérablement baissé, la durée effective, bien sûr. Oui.
Mais c'est une loi qui a tout de même alimenté.
La hausse des salaires rendue possible cette hausse des salaires rendue possible par les heures supplémentaires a été largement compensée par le fait que les cotisations patronales ont baissé considérablement.
Mais alors, est-ce que ce n'est pas aussi un discours, une loi qui a permis un discours selon lequel les Français travailleraient moins que les autres Européens, Jean-Yves Boulin, alors qu'en réalité, on voit que c'est un mythe. La réalité de la durée de travail montre bien qu'on travaille en France autant que nos voisins, sinon plus.
Alors, c'est là où on doit rentrer un petit peu dans la complexité du temps de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, la réduction du temps de travail, elle peut prendre deux formes. Elle peut prendre une forme collective, c'est le cas des 39 heures, des 40 heures, des 39 heures, des 35 heures, voilà, c'est collectif. Et donc, ça concerne essentiellement les temps pleins. Et puis, il y a une autre dimension qui est la réduction individuelle à travers le temps partiel. Ce temps partiel, en France, il s'est développé il s'est développé, c'est clair. On est parti de 5-6% au début des années 80, on est aujourd'hui à 18%. Ça n'a rien de comparable avec des pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, où la moitié de l'emploi est à temps partiel. Et en plus, en France, on a un temps partiel qui est un temps partiel long. Plus long que dans les autres pays, où le temps marginal, ce qu'on appelait le temps partiel marginal, c'est-à-dire faible, etc., en dessous de 20 heures, est plus répandu. Nous, c'est plutôt aux alentours de 23 heures. D'ailleurs, il y a une loi qui fixe à 24 heures la durée minimale, normalement. Elle n'est pas toujours respectée.
Mais ça rend en tout cas les comparaisons internationales.
Du coup, quand on compare les temps complets, on est à un peu plus de 39 heures pour les temps complets, ce qui est la fourchette basse dans l'Union européenne, du fait des 35 heures. Si on compare l'ensemble de la population, on est nettement au-dessus, parce qu'il y a effectivement, je dirais, le nombre d'heures travaillées est plus élevé collectivement, parce qu'il y a effectivement la réduction du temps de travail temps complet, mais un temps partiel qui est plus élevé qu'ailleurs. Donc du coup, on est en dessous de la Suède, on est en dessous de l'Allemagne, on est en dessous des Pays-Bas, etc. Au-dessus, je faisais une erreur. On est au-dessus de ces quelques pays de l'Union européenne. Et globalement, pour les temps complets, on n'est pas loin de la moyenne. On est en dessous de la moyenne, quand même, de l'Union européenne.
Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a peut-être un temps de travail qui est de plus en plus inégalement réparti au sein de la population, avec donc certains qui travaillent énormément et d'autres qui peinent à trouver un emploi. Et ce sont peut-être les diplômés, les plus diplômés, qui travaillent le plus aujourd'hui, Bernard Friot, en termes de durée de travail, avec aussi l'idée qu'ils ont plus de marge de manœuvre sur leurs horaires.
Oui, non, mais ça, les effets positifs du diplôme sur l'accès au marché du travail sont bien connus. Mais vous avez raison d'insister sur la multiplication des jobs, des emplois de courte durée, des emplois de faible intensité hebdomadaire. et la suppression même de l'emploi, hein, au bénéfice des auto-employeurs, au bénéfice de prestataires de services, au bénéfice de l'ubérisation. Hein, ça, c'est une préoccupation qui montre bien, d'ailleurs, hein, qu'il faut absolument sortir de la définition de Christian Bobin. Hein, le travail, c'est du temps transformé en argent. Hein, il faut en finir avec la définition du travail par le temps. Il faut vraiment mesurer le travail par les compétences mises en œuvre, la validité sociale de ce qui est produit, et attribuer à chacun un salaire lié à sa personne et non pas à son temps de travail.
Je parle d'un type qui bosse 7 jours sur 7, donc il fait 7 heures par jour, 3h30 le matin, 3h30 l'après-midi, avec une coupure de 3 heures au milieu, et donc ce type qui bosse 7 jours sur 7 me dit qu'il gagne dans les bons mois 1 200 € de chiffre d'affaires, toujours, hein, faut pas confondre avec du salaire. Et puis il me dit qu'il a la fièvre quand il rentre chez lui le soir, qu'il est malade, qu'il est pas bien, qu'il en peut plus, que ça fait 8 mois que ça dure, mais qu'il a pas le choix, qu'il trouve pas autre chose. Le type bosse 49 heures par semaine, 7 jours sur 7, et qu'il gagne pas le SMIC, quoi. Tout est à nos frais aussi, ah oui, tant qu'on y est, le vélo est à notre frais, le casque, si on veut mettre un casque, c'est à notre frais. Ça, c'est vraiment le truc que je trouve le plus abusé, il pourrait donner un casque et des lumières de sécurité, ce serait vraiment la base, quoi. Donc tout est à notre frais, le smartphone, tout. Il n'y a pas de représentation du personnel. Comme on est considéré, en fait, comme étant des partenaires d'entreprise en entreprise, il n'y a pas ce rapport de force que pourraient avoir des employés avec leur direction. Donc s'ils veulent nous payer, ils nous payent. S'ils veulent travailler avec nous, ils travaillent avec nous. Sinon, on ne veut pas, et ben, ils vont travailler avec quelqu'un d'autre. On est des associés. Et donc, en tant qu'associé, on peut pas demander à un associé d'améliorer nos conditions de travail. Et en plus, comme il y a une énorme pression sur le marché de l'emploi, parce que tout le monde veut bosser, et ben, ils se permettent de faire tourner à la chaîne les mecs les uns après les autres. Quand les mecs sont épuisés, quand ils n'en peuvent plus, et ben, il y en a 100 derrière qui sont prêts à bosser.
Le témoignage d'un livreur de l'entreprise Frishti, extrait d'un documentaire des Pieds sur Terre. Ce que l'on entend ici, c'est que le prix de la liberté promise par les plateformes, Jean-Yves Boulin, c'est à la fois une énorme charge de travail, mais aussi une grande précarité.
Oui, alors là, effectivement, il y a une sorte de rêve, entre guillemets, qui est en train de s'effondrer face à la réalité. D'abord, il faut replacer un peu les choses. Aujourd'hui, parmi ceux qui travaillent, l'emploi salarié reste encore dominant, et très largement, puisque c'est plus de 80, près de 88% de la population qui est salariée.
On en discutait justement dans notre émission. Voilà.
Donc, d'ailleurs, ça fait partie des éléments de la diminution du temps de travail. Le temps, avant, il y avait plus d'indépendants, et ces indépendants travaillaient plus. Effectivement, le fait qu'ils aient diminué a permis aussi de diminuer en moyenne cette durée du travail, quand je parle des moyennes, hein, là. Oui, non, les travailleurs des plateformes, on voit bien que ce sont des effectivement une manière, alors là, pour le coup, de contourner toutes les dimensions du salariat, toutes les dimensions protectrices du salariat, tout ce qui était protection sociale. Ça avait bien été expliqué dans un ouvrage qui était dirigé par des collègues de mon laboratoire, Sarah Abdelnour et Dominique Méda, sur les travailleurs des applis, hein. C'est parfaitement montré, ça. Et donc, effectivement, on a là une forme de travail qui s'est développée, qui est en train de se développer, et qui est une forme de travail soumis. C'est un peu le retour à la tâche. On retourne vers le 19e siècle. C'est-à-dire, la personne le disait bien, 7 jours par semaine, ils sont obligés d'accumuler des heures, beaucoup d'heures de travail. Donc, on retrouve des journées de travail absolument infernales, etc.
Mais justement, on peut comprendre que pour un travailleur indépendant, la durée légale du travail soit largement dépassée parce que c'est un choix personnel, dans le cas de ces travailleurs qui sont dits indépendants mais qui en réalité ont peut-être un rapport qui serait un salariat déguisé, Bernard Friot, la question de la durée du temps de travail se repose puisque c'est la question du choix.
Mais bien sûr, hein, nous sommes là dans l'infra-emploi. Hein. Maud Simonet a très bien analysé cela. L'emploi, ça a été une conquête. Hein. C'est une conquête de la CGT au XXe siècle qui oblige à contractualiser, entre autres, le temps de travail entre un employeur et un employé, alors que les capitalistes ne veulent jamais être employeurs. Ils veulent être donneurs d'ordre, passer par des sous-traitants. Ils veulent être comme les actionnaires de Deliveroo ou de Uber, évidemment, jamais employeurs. Et la conquête de l'emploi, a effectivement, c'est là-dedans que s'inscrit la réduction du temps de travail. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un retour à l'infra-emploi, ça c'est clair, hein, qui prend les allures de la liberté, mais enfin une liberté totalement illusoire.
Parce qu'il y a la question...
Cela dit, la solution pour ces travailleurs, mettons, on faisait allusion à la livraison à domicile de pizza à minuit, à des connards qui l'achètent au demeurant, il faut quand même pas oublier ça, hein, surtout s'il pleut, en fait, etc. La conquête aujourd'hui, c'est pas que ces gens-là deviennent les employés des actionnaires des Deliveroo, hein, c'est qu'ils aient un salaire lié à leur personne, qu'on en finisse avec le salaire lié à l'emploi, et qu'ils soient les copropriétaires d'usage de l'application, qu'ils soient les copropriétaires d'usage de la plateforme collaborative,
et qu'ils puissent notamment choisir davantage leurs horaires, puisque ce que l'on sait, si on regarde les effets du travail sur la santé, sur le sentiment de fatigue, Jean-Yves Boulin, ce qu'on voit, c'est que l'irrégularité des horaires est pointée du doigt comme le principal responsable de ce mal-être et de ses effets sur la santé.
Oui, alors il y a plusieurs éléments là. Il y a d'une part la dimension des horaires, c'est-à-dire le développement des horaires atypiques. Donc ce qu'on appelle, on entend par horaires atypiques, c'est ce qui sort du standard, on va dire 8h, 17h ou 18h. Et donc là, c'est le travail tôt le matin, tard le soir, par exemple, les gens qui font les ménages, le ménage dans les bureaux, c'est le travail dominical, c'est le travail aussi de nuit, etc. Donc là, on est sur des dimensions qui sont des dimensions qui tendent à augmenter, qui augmentent d'ailleurs, le travail du dominical a plus que doublé, le travail de nuit aussi, etc. Donc il y a cette dimension-là, puis il y a la dimension d'intensification du temps de travail. Ça, c'est bien renseigné par effectivement... les enquêtes européennes, notamment de la Fondation européenne de Dublin pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, qui a une enquête régulière, récurrente, tous les 5 ans, sur les conditions de travail, et qui montre de façon assez permanente, hein, cette tendance à l'intensification du temps de travail, au fait qu'on a de moins en moins de temps pour faire les tâches, et surtout aux ruptures dans le temps de travail, c'est-à-dire un temps de travail bousculé, c'est-à-dire on fait une tâche et puis d'un coup on nous demande d'en faire une autre, mais on n'a pas fini celle-là. Et ça crée un sentiment de frustration par rapport à la qualité du travail qui est effectué. C'est-à-dire que pour les salariés, on l'entend bien si vous écoutez par exemple les personnels des hôpitaux qui disent qu'ils ne peuvent plus faire un travail de qualité. Et dans les EHPAD, c'est pareil. Tous ces boulots de service
de sens
qui sont
importantes, dont on va reparler dans un instant, ainsi que cette intensification dont vous parlez, Jean-Yves Boulin, dans un instant.
Pendant toute la semaine, enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ce n'est pas trop tôt. Quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos, lorsque l'horloge sonne midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi. Et si l'on téléphone, eh ben tant pis, tant pis. Le patron, la patronne, tout le monde est parti. Michel est à la pêche, Lulu chez des amis. Et Robert se dépêche d'aller retrouver Mimi. On a mis sur la porte avis, avis. Aux raseurs de toutes sortes, fermés jusqu'à lundi. Lorsque l'horloge sonne midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi. Et si l'on téléphone, eh ben tant pis, tant pis. Le patron, la patronne, tout le monde est parti. Michel est à la pêche, Lulu chez des amis. Et Robert se dépêche d'aller retrouver Mimi. On a mis sur la porte avis, avis. Aux raseurs de toutes sortes, fermés jusqu'à lundi.
France Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Roquigny.
C'était Fermé jusqu'à lundi de Mireille. Nous sommes toujours en compagnie du sociologue Jean-Yves Boulin et du sociologue et économiste Bernard Friot en duplex de Nice pour parler de la dilution du temps de travail. Alors le code du travail interdit le travail du dimanche, mais des dérogations existent permettant aux entreprises de faire travailler donc leurs employés ce jour-là. Est-ce qu'il s'agit d'une régression, au contraire d'un plus grand choix laissé aux travailleurs? Je voudrais d'abord que l'on écoute les arguments de Jean-Jacques Salin, qui est directeur général France du groupe espagnol de prêt-à-porter Inditex.
On a trop de volontaires quand on est ouvert le dimanche, parce que l'avantage d'être payé double, de récupérer, etc. Notre accord, il est très simple. Les salariés sont payés 110% de plus et récupèrent leur jour de repos avec des conditions pour la garde d'enfants et le transport. Donc on a un accord qui correspond exactement à ce qui était demandé dans le cadre de la loi Macron. Et on a intégré une partie un peu différente qui prévoit notamment d'ouvrir à des horaires selon le trafic en magasin, c'est-à-dire de ne pas obliger les gens de venir trop tôt le matin et de partir trop tard. Et puis si le magasin n'est pas rentable, de ne pas l'ouvrir. Alors, le bilan est mitigé. D'une part, on s'aperçoit que le fait d'ouvrir un dimanche n'augmente pas le pouvoir d'achat des Français, et donc de ce fait, les achats sont dilués sur le reste de la semaine. Après, quand nous sommes dans des zones touristiques importantes, comme les Champs-Élysées ou d'autres, comme un centre commercial comme La Défense, on a un trafic qui est plus important, et donc de ce fait, on est rentable. Après, sur d'autres secteurs, sur d'autres zones, on a été amené à fermer les magasins rapidement, parce que derrière, les bilans n'étaient pas bons.
Un extrait d'un entretien réalisé par nos confrères de France Inter. Bernard Friot, les conditions avantageuses qui étaient décrites ici, et puis aussi le nombre important de candidats, justifient-ils selon vous d'autoriser le travail le dimanche ?
Non, mais cet interlocuteur dit les choses de façon très, très exacte. Vous pouvez vendre 24 heures sur 24. Si les gens n'ont pas plus de sous, de toute façon, vous gagnerez pas plus que si vous vendez 8 heures sur 24 et 5 jours par semaine. Enfin, tout ça est absurde. Sauf dans les centres touristiques. Et c'est ça que nous voulons, c'est transformer nos pays en lieu de tourisme, en lupanar pour touristes. Enfin,
mais qu'est-ce qu'on fait des candidats, des gens qui veulent travailler le dimanche? Ce que dit ici Jean-Jacques Salin, c'est qu'il a beaucoup de personnes, beaucoup d'employés qui le demandent.
Et bien sûr qu'on le demande quand on est mal payé, c'est évident. La vente n'est pas une branche réputée pour ses hauts salaires. Ce sont des salaires extrêmement bas. Et donc, évidemment, vous avez des candidats. Mais là, c'est là qu'il faut en sortir avec l'idée que le travail, c'est du temps transformé en argent. Il faut en finir avec cela. Le travail, c'est le cœur de nos existences. Si nous voulons nous constituer à la fois comme espèce et comme individu, tout ce qui est négociation avec la nature, confrontation aux autres dans le travail est absolument fondamental d'un point de vue anthropologique. Chacun doit être reconnu comme travailleur par une qualification et un salaire lié à sa personne, et il n'y aura pas de candidat pour faire de la merde le dimanche.
Ce qu'il faut dire concrètement, Jean-Yves Boulin, c'est que le travail le dimanche, ça a des conséquences sur les relations de famille, les relations amicales. Ça, il y a un certain nombre d'études qui le montrent.
Oui, alors juste pour revenir sur sur cet extrait, sur cette interview du patron d'Inditex, Zara, quoi, pour faire vite. J'aime bien, il emploie l'expression trafic. Je trouve que c'est une expression très, genre, on peut la retourner, quoi, son expression. Comme lui, il retourne l'idée que le travail du dimanche serait une expression de la demande. Ça serait une demande des consommateurs, une demande des personnes disposées à travailler ce jour-là, et non pas une politique d'offre. C'est assez curieux parce que aujourd'hui, on voit des magasins qui essayent d'ouvrir le dimanche sans personnel. Donc alors là, ça veut dire qu'ils veulent ouvrir qu'avec des caisses automatiques, etc. On voit bien que la dimension facilité, enfin, rendre service aux gens qui auraient besoin de travailler plus. Alors, Bernard a raison, s'ils ont besoin de travailler plus, c'est parce que les salaires sont bas, ça c'est clair. Alors par ailleurs, effectivement, alors bien sûr qu'il y a des candidats, parce que dans les conditions actuelles, eh bien, de contraction des budgets, etc., il y a bien sûr il y aura toujours des candidats. Et puis en plus, ça dépend des situations. Mais l'idée que c'est volontaire est quand même une idée qui est largement fausse. C'est-à-dire que quand on vous demande de travailler le dimanche, on a eu des exemples de licenciement pour refus d'avoir travaillé le dimanche au 21e siècle, comme ça, quand même, pour dire.
Ce que vous voulez dire, c'est que les gens n'ont pas forcément conscience des conséquences que ça peut avoir dans leur vie personnelle.
Mais ils en ont tout à fait conscience. Ils savent très bien que ça va perturber leur vie familiale. Ils savent très bien qu'ils vont pas avoir leurs enfants ce jour-là. Le dimanche, c'est le jour de la synchronisation sociale. C'est le jour où on peut voir ses enfants, etc. Alors vous allez me dire, ah oui, mais tout le monde n'a pas des enfants, etc. On est bien d'accord. d'accord, mais c'est le jour, pas seulement la synchronisation familiale, mais aussi sociale. C'est le jour où on peut aller se promener avec des amis, on peut jouer au foot en équipe, etc. On peut faire des barbecues, bref, c'est là où on se retrouve entre tribus, etc., avec des amis. C'est le seul jour de synchronisation, c'est-à-dire que vous n'en avez pas d'autres. Donc si celui-là est perdu, ben, il est perdu de toute façon. Donc, non, il y a derrière cette idée-là, et c'est vrai, on a regardé ça avec Laurent Lénard dans l'ouvrage qu'on a écrit sur le dimanche, c'est qu'effectivement, ça a des conséquences négatives sur les usages du temps, sur le temps passé avec les enfants, sur le temps passé avec les amis, etc. Ça, c'est clair, c'est montré de façon très claire. Alors après, bien sûr que les gens en ont conscience, mais ils disent, on n'a pas le choix. Ils disent, non, je ne suis pas volontaire, mais de toute façon, un, je n'ai pas le choix, et deux, oui, je n'ai pas le choix, soit parce qu'on me l'impose, soit aussi parce que, j'ai un prêt, je dois effectivement rembourser ce prêt, ou etc.
Bon, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est si jamais cette réduction du temps de travail au cours de ces deux derniers siècles dont nous avons parlé en début de cette émission, si cette réduction s'est accompagnée d'une augmentation véritable du temps de loisirs, parce que ce qu'il faut noter en même temps, Jean-Yves Boulin, c'est que on constate une hausse du temps de transport, ce qui réduit aussi ce temps de loisirs ou ce temps familial.
Oui, alors ça c'est des données qu'on a bien repérées statistiquement, c'est que par exemple les enquêtes emploi du temps sur lesquelles on a travaillé avec Laurent Lénard montrent par exemple que alors le temps de transport avait diminué jusqu'en 1986, mais depuis 1986 il augmente et il augmente fortement. Si on prend par exemple juste la réduction du temps de travail à 35 heures, donc en gros les salariés qui travaillaient à plein temps ont gagné 20 minutes, ils travaillent 20 minutes de moins. Dans ces 20 minutes, il y en a 7 minutes qui sont consacrées aux enfants, à peu près, par jour, on parle par jour là, 7 minutes consacrées aux soins, aux enfants, etc., par les hommes comme par les femmes. D'ailleurs, plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire c'était aussi ce qui était recherché, ce qui avait été annoncé par Martine Aubry, envisagé par Martine Aubry, ça aurait un effet aussi de ce point de vue-là sur l'égalité de genre dans la distribution des tâches.
Même si on en est encore loin sur la distribution des tâches domestiques.
On en est très loin, il y a encore 1h30 d'écart par jour entre le temps consacré aux tâches domestiques. Mais sur les enfants, ça s'est un peu rapproché. C'était un petit progrès. Si on cherche du progrès, ce qu'a produit la loi sur les 35 heures, il y a eu 350 000 emplois, il y a eu ça, etc.
Donc sur les 20 minutes, 7 sur les enfants.
7 minutes au loisir et 7 minutes au transport. Au transport, travail, domicile, commuting, ce que les Anglais appellent le commuting. C'est-à-dire que 7 minutes par jour. Donc, multiplié par 7 par 5 pour avoir. L'effet sur la semaine, etc. Donc, on a des temps de transport qui augmentent, et de fait, c'est évident, du fait de la périurbanisation, du fait qu'on va habiter de plus en plus loin, etc.
Donc, et c'est justement pour répondre à ça que s'est développé aussi le télétravail face à cette augmentation du temps de transport. On travaille de plus en plus chez nous, mais peut-être que ça a d'autres conséquences, Bernard Friot, et notamment le fait de rendre les frontières entre le travail et le loisir de plus en plus floues.
Ah bien sûr, il y a tout un travail législatif à construire sur la déconnexion. Il faut absolument être déconnecté de son entreprise beaucoup plus que nous ne le sommes aujourd'hui, sur la prévisibilité des horaires. Les horaires sont de plus en plus imprévisibles. Donc là, bien sûr que cette dilution du travail...
Vous parlez de connexion, en effet, c'est important. On peut parler de la généralisation du smartphone qui fait que finalement, on est tout le temps connecté à nos mails. Est-ce que d'une certaine façon, on travaille peut-être moins au bureau, mais finalement, on travaille un petit peu tout le temps.
Oui, mais là, encore une fois, ça renvoie au fait que dans le capitalisme, nous ne décidons pas du travail, on ne décide pas de l'investissement, on ne décide pas de ce qui va être produit, etc., etc. Et la classe dirigeante nous amuse avec des consommations qui nous aliènent en réalité. Enfin, qu'est-ce qu'on a à foutre d'être pendant toute sa journée devant son smartphone ? Tout ça est absurde.
Tout autre débat, effectivement,
c'est un débat absolument lié au travail. Quand on n'a pas la maîtrise de l'essentiel de notre vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on sort du mur anthropologique et écologique dans lequel les capitalismes nous conduit? Qu'est-ce qu'on produit? C'est quoi travailler? Tant qu'on n'a pas du tout la maîtrise de ça et qu'on est invité à se consoler dans des smartphones, évidemment que toutes les choses sont mal posées, évidemment que le loisir devient aussi un moment d'aliénation. Parce que à travail aliéné, loisir aliéné, et alors on va aller se balader, effectivement, puisque c'est ouvert le dimanche, faire la promenade familiale à Carrefour ou je sais pas où. Enfin,
alors on va en venir à cette définition du travail, parce qu'effectivement c'est très important de savoir ce qui relève du travail ou non, mais avant tout de même, je voudrais vous entendre, Jean-Yves Boulin, sur cette question de l'intensification que vous avez souligné tout à l'heure, le fait qu'on travaille à la fois de façon plus intense sur les moments où on travaille puisqu'on a moins d'heures, mais aussi le fait qu'on travaille peut-être un petit peu tout le temps. Tout cela a un impact sur le stress des salariés et sur plus largement les conditions de travail et le sens qu'on donne à notre travail.
Oui, le monde de Mireille est un peu loin aujourd'hui, c'est-à-dire que l'idée que là, que à lundi, et ça sera fermé à partir du vendredi jusqu'à... Non, ça, effectivement, c'est terminé. C'est un travail qui a envahi, on le voit bien, avec effectivement ces ouvertures du dimanche, parce que ça commence par le commerce, puis après ça sera... Alors le commerce, ça induit le transport, ça induit etc. etc. Ça a des effets d'ailleurs sur la dimension écologique et environnementale sur laquelle on nous fait des grands discours aujourd'hui, on fait des COP, etc., et à Paris en particulier, mais derrière, développer par exemple les horaires de nuit, comme un projet gouvernemental voulait le faire aujourd'hui dans le travail, dans le
qui a finalement été remis à plus tard,
qui a été remis à plus tard parce que ça semblait trop charger la barque en cette fin d'année qui était déjà assez chargée du point de vue des contestations sociales. Mais enfin, effectivement, et pour faire ça, qu'est-ce que fait le gouvernement? Et c'est plus du travail de nuit. Donc de 21h à minuit, c'est plus du travail de nuit, c'est du travail de soirée, donc c'est plus soumis à la loi sur donc la médecine du travail, etc. Non, derrière, effectivement, ce qu'on voit, c'est un travail, une activité, on l'appelle comme on veut, etc., qui envahit toutes les dimensions, toutes les séquences temporelles. C'est-à-dire celle qui était auparavant dévolue au loisir, etc., parce que c'était le dimanche, c'était aux marges du travail, eh ben elle n'existe plus. Donc chacun se débrouille. Comme disait Bernard, chacun va se débrouiller pour mener son activité de travail, mener son activité de loisir, etc. Alors, moi, je ne suis pas complètement opposé à ça. Par exemple, l'idée du smartphone, moi, je ne suis pas opposé à ça parce que ça rend beaucoup de services, etc. À condition qu'on en ait la maîtrise.
Ça aliène tout l'emploi du temps.
À condition qu'on en ait la maîtrise, Bernard, bien sûr. À condition qu'on puisse dire, moi, j'arrête là. Et puis stop, et que l'employeur n'ait plus à dire et intervenir. Bien sûr, si on n'a pas cette maîtrise-là, comme si on n'a pas la maîtrise de son...
Maîtrise qui doit avoir des bases légales, selon vous ?
Ah ben oui, bien sûr. C'est-à-dire, on ne doit pas pouvoir dire... Alors, il y a des chartes, on dit, ah oui, mais la France est très en avance, il y a un droit à la déconnexion. Mais ce droit à la déconnexion, c'est de la foutaise, aujourd'hui.
Ça pose la question de l'application, ensuite.
On va faire des chartes dans des grandes entreprises du CAC 40, ils vont faire des chartes en disant, faut pas envoyer des mails à partir de 20h, faut pas en envoyer pendant le week-end, etc. Mais tout ça, c'est de la blague, parce que derrière, c'est pas... Il n'y a pas une vraie contrainte. Alors, c'est vrai que moi, il y a des Japonais qui viennent me voir et me disent, mais alors, le droit à la déconnexion en France, c'est quand même le seul pays qui a mis inscrit ça dans sa loi. Alors, je leur explique que oui, mais ça n'a pas beaucoup d'effet de fait.
Et peut-être a-t-on réduit cette notion de travail au travail rémunéré. Je voudrais vous faire entendre le juriste et spécialiste du droit du travail, Alain Soupio.
Ah. La salariée qui rentre, qui a travaillé derrière sa caisse à Paris, qui fait son heure de RER ou plus pour rentrer chez elle. Elle va s'occuper de ses enfants, elle va préparer le dîner. C'est du travail. Peut-être elle va s'engager dans son syndicat, aller distribuer des tracts, contribuer à rédiger des motions. C'est du travail. Ou elle va se faire élire politiquement, ou elle va entrer dans une association... ou une ONG, etc., c'est du travail. Je dirais même que, lorsque je croise quelquefois dans des ascenseurs au petit matin, des petits qu'on emmène à la crèche, ils commencent à faire l'apprentissage du temps de travail. On les sort de leur lit tous les matins, et à nos enfants, nous allons dire « tu vas bien travailler à l'école ». Ce qui ne nous interdit pas, dans le même temps, de dire que nous interdisons le travail. Le travail des enfants est interdit. Mais on dit à nos enfants qu'il faut bien travailler à l'école. Donc vous voyez que autour de cette notion de travail, ça flotte un peu.
Ça flotte un peu. Quelle est la juste définition du travail, Bernard Friot ? Est-ce que l'on travaille dès que l'on produit de la valeur ?
Alors, distinguons bien valeur économique et valeur d'usage. Hein. Produire de la valeur d'usage, je sais pas, c'est soigner, c'est conduire un bus, etc., etc. Produire de la valeur économique, ça, c'est augmenter le PIB. Hein, toute activité qui produit des valeurs d'usage ne produit pas de valeur économique. Il est d'ailleurs extrêmement important que des tas de notre activité ne relèvent pas de la valeur, hein, que reste dans la gratuité, contre tout ce qui se fait aujourd'hui pour que nous monétisions dans Blablacar, Airbnb et autres plateformes circulaires où on monétise y compris l'usage de nos appareils ménagers par autrui. Tout ça doit disparaître de notre horizon. Enfin, on ne peut pas nous engluer dans la valeur comme le capital entend le faire, tout en réduisant alors en permanence le travail à ce qui met en valeur du capital. Et effectivement, pour un capitaliste, un fonctionnaire ça travaille pas, un retraité ne travaille pas, la seconde journée des femmes c'est pas du travail, un chômeur ne travaille pas.
Mais alors c'est quoi la solution? Il faut distinguer travail et emploi? C'est ça la solution?
Non, il faut... Oui, distinguer travail et emploi, bien sûr que nous travaillons au-delà de l'emploi, c'est-à-dire que l'emploi, c'est la forme conquise au demeurant, hein, sur le travail indépendant. Le travail indépendant, c'est la forme canonique du travail dans le capitalisme. Hein. Bon, l'emploi a été conquis avec les droits liés en termes de durée, salaire, à la qualification, etc. Et maintenant, il faut aller au-delà de l'emploi, bien sûr. Hein. Ce sont nos personnes qui doivent être reconnues comme travailleuses en tant que personnes par un droit politique. À 18 ans, chacun doit avoir le premier niveau de qualification comme enrichissement de sa citoyenneté. Et en même temps, et donc les 1700 euros qui vont avec, puisque c'est le SMIC revendiqué par les syndicats à peu près, cela comme confirmation que nous sommes à l'origine de la valeur, nous sommes les travailleurs, nous devons être connus, on n'a pas à quémander sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services notre connaissance.
Alors justement, on va faire intervenir Jean-Yves Boulin sur cette question. Est-ce qu'il faut une reconnaissance du travail qui ne se fasse pas seulement par le prisme de l'emploi?
Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, Bernard a parlé de « Au-delà de l'emploi », qui était un ouvrage qui avait été dirigé par Alain Supiot, justement. De faire reconnaître, et c'est ce qui manque, c'est absence de perspective dans la réforme de retraite, moi, qui me frappe. C'est-à-dire, effectivement, de reconnaître que la retraite, c'est pas, on s'arrête pas, on n'arrête pas de travailler. On peut, alors, il y en a qui continuent de travailler, mais cette activité de soins, les féministes, depuis très longtemps, veulent faire reconnaître le travail domestique comme un travail qui effectivement devrait être, alors Bernard ne sera pas d'accord avec ça, mais qui pourrait être inclus dans le PIB, c'est-à-dire que c'est de la valeur, effectivement, parce que c'est, on prend soin, tout.
Mais il faut distinguer les différentes activités qui nécessiteraient ou qui mériteraient une rémunération, ou est-ce qu'il faudrait créer une forme de salaire universel, comme on a pu entendre la proposition?
Ça n'est pas les activités qui méritent rémunération. Ça, c'est la forme capitaliste, oui. On est mesuré par les activités que l'on fait, et à condition qu'elles mettent en valeur du capital, sinon on n'est pas considéré comme travailleur. Mais non, encore une fois, ce sont nos personnes, c'est le travail vivant qui produit la valeur. Et donc, nos personnes doivent être reconnues comme... titulaire d'une qualification, ayant le droit politique à du salaire, ce qui n'est pas évidemment pour ensuite mettre en œuvre cette qualification, il faudra passer un contrat de travail dans une entreprise, respecter un certain nombre d'engagements pris dans ce contrat de travail. Bien sûr, évidemment, hein, ça ne
alors justement,
permet pas à chacun de faire n'importe quoi, n'importe comment.
Et justement, je voudrais vous faire entendre un dernier témoignage, le témoignage d'un retraité.
Je distribue des pubs.
Un petit boulot comme les autres, quoi.
Ça fait longtemps que vous faites ça?
5 ans en complément de retraite.
Combien vous touchez de retraite?
700 euros. Là, je fais 20 heures par semaine, sur 3 jours, mais garantie tous les mois, si on a pris 2 kilos, on les perd. Mais c'est surtout l'activité physique et pas rester à la maison, bouger, voir du monde, voilà. Se promener en ville, c'est sympa. J'ai des copains de mon âge, ils sont morts avant l'heure, quoi. Sur 6 copains d'enfants, je n'en ai plus qu'un qui est vivant. Un collègue me racontait, là, son voisin qui était à la campagne, qui était tout seul, bah, il s'est jeté dans un étang, là, il avait ras-le-bol. Il a écrit un mot à ses enfants, comme quoi, il s'emmerdait, quoi. Alors que là, l'activité physique, elle est bien. Puis on voit du monde, on marche, et 7-8 km par jour, on les fait. Donc physiquement, c'est bien.
Voilà le travail pour compléter sa retraite. Que vous inspire ce témoignage, Jean-Yves Boulin?
Il faut distinguer la nécessité et qui est là, très clairement. Une retraite de 700 euros, cette personne ne peut pas vivre avec. Et aussi, distinguer ça de cette question de l'activité ou comment on peut l'appeler, ce qui se passe pendant la retraite. C'est-à-dire qu'effectivement, la retraite peut être aussi une mort sociale pour certains. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas prévu, ils n'ont pas anticipé, ils arrivent et ils commencent à avoir des maladies, etc. Voilà, c'est...
Ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est précisément, on a le sentiment que ce second argument est comme une justification au fait de devoir compléter sa retraite et une façon de dire qu'on l'a choisi d'une certaine façon.
Oui, mais il y a plein de travail bénévole qui est fait par les retraités. Les retraités sont omniprésents dans les associations, dans ce qu'on a appelé à un moment donné le quatrième secteur, etc. Donc, il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'activités. Le retraité, c'est pas une mort, on s'arrête pas. Donc, le retraité, lui, il continue à travailler, continue à avoir une utilité sociale. Elle peut être rémunérée ou pas rémunérée. Rémunérée parce que c'est des gens. Du coup, quand ils sont rémunérés, ça veut dire qu'ils se remettent, ils continuent à être sous l'autorité, d'un employeur, d'un donneur d'ordre, etc.
Mais si l'on vous suit bien, finalement, la retraite, ce serait un salaire qui rétribuerait le travail des retraités. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Friot ?
Mais bien sûr, c'est tout l'enjeu, c'est absolument tout l'enjeu de la réforme Macron. La réforme Macron, c'est de supprimer toute référence au salaire dans le calcul de la pension. Actuellement, sur les 320 milliards de pensions, 240, les trois quarts, sont calculés sans aucune référence aux cotisations. C'est un remplacement du salaire. Les retraités sont des travailleurs qui ont droit à du salaire. C'est pas des gens qui sont exclus du travail. Ils sont reconnus comme travailleurs par un salaire. Or, précisément, la réforme Macron a comme objectif d'en finir avec ce lien entre salaire et retraite, de dire c'est d'anciens travailleurs qui ont droit au différé de leur cotisation, ce qui est pour moi une mutilation anthropologique. Encore une fois, ce monsieur qui dit que ses six copains, je sais plus combien, sont morts, il y a un vieillissement biographique qui est une réelle, mais le vieillissement social, il est lié au fait qu'à partir d'un certain âge, nous sommes exclus du travail. Nous ne sommes plus reconnus comme productifs.
Et en même temps, vieillissement démographique et en même temps, allongement de la durée de vie qui fait dire au gouvernement qu'il va falloir de toute façon travailler plus longtemps.
Attendez, travailler plus longtemps, si c'est avoir un emploi plus longtemps, non. Il ne s'agit pas d'avoir un emploi plus longtemps. Il s'agit que, moi je préconise que dès 50 ans, nous soyons libérés de l'emploi. C'est-à-dire qu'à 50 ans, nous refassions le geste que fait Croizat en 46, quand il dit les retraités sont des travailleurs qui ont droit à la poursuite de leur salaire. Eh bien, à 50 ans, travailleurs ont leur salaire à vie, porté au salaire moyen, parce qu'à 50 ans, on doit avoir atteint le salaire moyen de 2300 euros. Et avec, au moins à 2300 euros, d'accord, et avec ce salaire à vie, ils ont aussi une responsabilité. C'est l'absence de responsabilité économique qui fait qu'on vieillit socialement.
Mais on va vous répondre que c'est particulièrement difficile à financer, et en tout cas, ça serait l'objet d'un autre débat. On pourrait en parler encore longtemps, Bernard Friot, malheureusement, on arrive au terme de cette émission, je suis désolée.
Oui, le financement, c'est aussi absurde de demander comment on va financer les retraites de travailleurs qui continuent à produire de la valeur que de demander comment on va alimenter en électricité une centrale électrique. C'est le travail vivant qui produit la valeur. Ces retraités produiront de la valeur. Ils seront libérés du marché du travail, libérés de la soumission à un employeur. Mais enfin, ils vont pouvoir travailler librement.
Un mot très rapide, Jean-Yves Boulin.
Oui, non. Moi, je pense que ce qui manque dans cette réforme actuellement en débat, c'est une perspective. Elle manque de sens et elle manque de perspective. Moi, je ne suis pas contre le fait de dire, par exemple, qu'on va travailler plus longtemps en âge, mais pas plus longtemps en temps, par exemple. Donc, ça suppose que, par exemple, qu'il y ait des ruptures dans la carrière professionnelle, des possibilités de prendre des congés sabbatiques, des congés formation, des congés pour faire autre chose, etc., qui permettent la possibilité, par exemple, j'entendais l'autre jour un pompier qui disait « Mais moi, je ne vais pas faire ce boulot jusqu'à 60 ans. » Oui, mais alors, il peut se former pendant un an pour faire autre chose, voilà. Et donc, là, il y a une... un problème de perspective qui est complètement absent dans cette
un problème
dans cette,
de perspective
dans cette réforme
on retraite. Finira là-dessus. Un grand merci à tous les deux. Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques, nous a rejoint autour de la table. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous allez nous parler de changement climatique.
Oui, il faut y revenir. Le week-end dernier, la COP25 s'est terminée par un échec. Il n'y a pas eu, en effet, d'entente sur les modalités d'application de l'accord de Paris, notamment sur la façon de comptabiliser les résultats des actions qui pourraient être financées par des pays du Nord dans ceux du Sud. Et c'est un élément clé de l'accord de Paris. Et de plus, aucun des grands émetteurs de gaz à effet de serre n'a relevé ses engagements de baisse des émissions. Or, ceux-ci sont très insuffisant pour espérer tenir l'objectif de 2 degrés qui est au cœur de l'accord de Paris. Malgré les multiples alertes climatiques des derniers mois, le blocage des Trump et autres Bolsonaro s'est révélé efficace.
Alors l'accord de Paris est-il définitivement mort ?
Pas encore. Il a manqué en particulier, cette fois-ci, un travail diplomatique suffisamment intense en amont de la conférence que le Chili, qui la présidait, ne pouvait pas mener. C'est le Royaume-Uni qui accueillera la COP26 à Glasgow l'an prochain. L'opinion britannique est très mobilisée sur ce sujet. Et quoi qu'on pense de Boris Johnson, on peut espérer que nos voisins auront à cœur de remettre le processus sur les rails avant l'entrée en application de l'accord en 2021, comme les Français l'avaient fait en 2015 pour le lancer. Il ne faut à aucun prix, en tout cas, lâcher l'affaire parce que on n'a pas d'autres instruments pour agir à l'échelle planétaire et il ne pourra pas y en avoir d'autres à temps.
Ce coup de frein risque quand même de pousser l'Europe à lever le pied sur sa transition énergétique, Guillaume ?
Je ne crois pas et je n'espère pas. D'abord, nous avons une responsabilité historique dans ce domaine. C'est nous qui avons inventé la révolution industrielle et c'est à nous de montrer l'exemple pour réparer les dégâts. Mais la transition énergétique en Europe est également un enjeu d'indépendance à l'égard de régimes aussi peu recommandables que ceux de Vladimir Poutine ou Mohamed Ben Salman. Si nous ne faisons pas le nécessaire pour nous passer de gaz et de pétrole, nous ne parviendrons pas à maintenir nos modèles sociaux dès que leurs prix monteront. Ursula von der Leyen et la nouvelle Commission européenne proposent désormais de viser la neutralité carbone en 2050 et de baisser de 55% nos émissions en 2030 par rapport à 1990, au lieu des 40% prévus jusqu'ici. Comme toujours en Europe, il faudra veiller attentivement à ce que les égoïsmes nationaux ne dénaturent pas ce projet et s'assurer que les moyens suivent bien. Il n'empêche, pour l'instant, l'ambition reste forte et c'est très bien comme ça.
Et la France dans tout ça ?
Le gouvernement français avait joué un rôle important en 2015 avec l'accord de Paris et il soutient aujourd'hui les propositions d'Ursula von der Leyen. Mais en attendant, il ne fait guère ses devoirs à la maison. Les émissions des transports et du logement n'ont quasiment pas baissé en France depuis 2015 et nous sommes le deuxième pays d'Europe le plus en retard pour le déploiement des énergies renouvelables. Et ce ne sont pas l'arrêt de la hausse de la taxe carbone suite au mouvement des Gilets jaunes ou la nouvelle baisse programmée du crédit d'impôt pour la transition énergétique en 2020 qui vont améliorer les choses. Est-ce que la Convention citoyenne sur le climat qui a été lancée à l'automne dernier va permettre de lever enfin les blocages qui empêchent la France de se porter à la hauteur de l'enjeu ? Il faut l'espérer.
Merci beaucoup Guillaume. Et alors quelle est la une d'Alternative économique ce mois-ci ?
On a titré sur « Et si on mangeait autrement ? Faut-il devenir végétarien ? Peut-on se passer des pesticides ? L'avenir sera-t-il bio ?» L'époque des fêtes nous paraissait favorable.
Un bon sujet avant les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Guillaume et bon week-end. Avec Origin, Dolt Kelton. Merci beaucoup Bernard Friot et Jean-Yves Boulin de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci aux techniciens des bureaux de Radio France à Nice qui ont permis ce duplex. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Bernard Friot, L'enjeu des retraites, paru aux éditions La Dispute. Et Jean-Yves Boulin, Les batailles du dimanche, écrit avec Laurent Lénard et publié aux Presses universitaires de France. La semaine prochaine, nous vous proposons à la réécoute une série consacrée à l'économie de l'Antiquité. Lundi, cap sur Babylone, au temps d'Amourabi, au
18e siècle avant Jésus-Christ. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année au cours desquelles vous pouvez, si vous le souhaitez, écouter ou réécouter toutes nos émissions. Il suffit pour cela d'aller sur notre site franceculture.fr ou sur n'importe quelle application de podcast. Belles fêtes à toutes et à tous et bon week-end.